Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 154 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Face à des problèmes complexes, des enjeux clés ou des opportunités, comment est-il possible de tirer avantage de l'intelligence collective de son organisation? Marie-Christine Messier discute avec nous de l'art de la facilitation d'ateliers collaboratifs. La facilitation d'ateliers consiste à guider une équipe à travers un processus d'étapes prédéfini pour trouver ses propres solutions. Nous explorons avec elle le rôle du facilitateur, sa contribution, les différentes conditions de succès et les ingrédients nécessaires au succès d'un atelier tirant pleinement avantage de la collaboration. Marie-Christine Messier aide les gens à mieux travailler ensemble. Elle est designer d'ateliers d'idéation, facilitatrice et formatrice. Elle a fondé MCM & Co. en 2014 et depuis ce temps, à titre de consultante, elle accompagne les individus, les équipes et les entreprises dans le déploiement de leur expertise en les aidant à résoudre des problèmes, à prendre des décisions et à innover plus rapidement en utilisant la puissance des ateliers de collaboration. Marie-Christine a aussi travaillé pendant plus de 15 ans au sein d'agences et de grandes entreprises en tant que spécialiste en expérience utilisateur et en expérience client. Elle a développé une expertise à faciliter des ateliers d'idéation et de co-création, tant à distance qu'en personne, en utilisant son expérience en design thinking, en expérience client, en expérience utilisateur, de design sprint, ainsi que Lego Serious Play. Bonne entrevue! Bonjour Marie-Christine, bienvenue sur le podcast. On est très heureux de t'avoir avec nous.
Merci Éric, très contente d'être avec toi ce matin.
Dis-moi, tu es une experte en facilitation d'ateliers. Pourrais-tu nous expliquer ton parcours et comment t'en es arrivée à t'intéresser à la facilitation d'ateliers?
Absolument. Alors, mon parcours, en fait, j'ai une expertise en expérience client, expérience utilisateur. Donc, j'ai eu à travailler pendant plusieurs années avec des équipes multidisciplinaires. Sans le savoir, je prenais le lead dans les rencontres. C'était naturel pour moi, mais sans savoir que c'était mes premiers balbutiements, en fait, au niveau de la facilitation. Je me considérais pas du tout facilitatrice à l'époque. Et c'est en m'intéressant davantage au design thinking autour de 2015-2016, où là, j'ai découvert vraiment l'arrière-scène, en fait, de, oui, faire des projets de design thinking, ça implique évidemment beaucoup de réunions, de rencontres de travail. Puis, ben je me suis rendu compte aussi que ben il y avait le penchant facilitation pour vraiment optimiser ces rencontres-là. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à plonger là dans l'efficacité, la productivité des rencontres et que là, j'ai découvert le monde de la facilitation des rencontres.
Il y a un truc que j'aimerais que tu me parles. Tu m'expliquais aussi en préparation de notre épisode que tu as passé à travers cette période-là de l'experte de contenu à l'experte, je ne veux pas dire de contenant, là, c'est pour c'est une mauvaise façon de le dire, mais tu es plus en termes d'encadrement. Donc, il y a eu un changement de perspective à travers justement cette évolution-là.
Oui, absolument. C'est vrai que pendant plusieurs années, on m'engageait justement par mon expertise en expérience client, tout l'aspect design de service. Donc, oui, il y avait cette expertise-là. Mais je me suis rendu compte avec les années que le côté support à un groupe m'intéressait beaucoup. Donc, au cours des 6-7 dernières années, j'ai fait justement une transition pour ne plus être l'experte dans la salle au niveau du contenu, mais plus être l'experte du processus de collaboration. Donc, le contenant dont tu faisais référence tantôt, mais c'est ça. J'ai mis l'accent davantage sur me spécialiser dans le processus de collaboration. Comment amener les gens d'une étape à une autre, puis de faire travailler les experts autour de la table.
Donc, par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'on fait appel à un facilitateur? Est-ce qu'il y a des problèmes types, des enjeux types, des défis qui sont plus propices à faire affaire avec un facilitateur? C'est quoi le rôle du facilitateur, justement?
Ouais, ben en fait, si je résume, là, le rôle du facilitateur, c'est essentiellement de guider une équipe à travers un processus d'étape prédéfini, mm-hmm. puis qui va justement aider cette équipe-là à trouver ses propres solutions. Donc, puis ici, je précise là, les propres solutions de l'équipe et non pas du facilitateur. Oui. Donc, quand est-ce qu'on engage un facilitateur? Bien, souvent, quand on a des problématiques complexes, on a des enjeux de communication au sein d'un groupe, on veut faire sortir le groupe de la fameuse boîte. Donc, c'est à ces moments-là qu'on veut justement bénéficier des avantages d'avoir un facilitateur pour vraiment que cette personne-là vienne, en fait, être spécialiste du processus de collaboration, puis de s'assurer, en fait, que les gens qui sont autour de la table, ben ils vont, on va utiliser toute leur pleine capacité au niveau de leur expertise, c'est-à-dire ce pourquoi ils sont engagés à la base quand mm-hmm. ils travaillent dans une entreprise. Puis le facilitateur, lui ou elle, son travail, c'est de venir extirper, en fait, ces connaissances-là pour bénéficier l'ensemble du groupe, donc la fameuse intelligence collective.
Et est-ce qu'il y a, tu me parles justement de la notion de participation, de faire participer l'équipe, c'est quoi les impacts de la participation active des gens de l'organisation pour solutionner leurs problèmes? Il y a certainement un élément qui est extrêmement positif à maximiser de ce côté-là.
Absolument. En fait, tantôt, je faisais référence à l'engagement. Mm-hmm. Le fait que les gens participent eux-mêmes à la création des solutions ou à l'identification des priorités, des problématiques sur lesquelles on veut travailler, des défis. Je dis problématiques, mais souvent, c'est pas juste des problèmes, ça peut être aussi des opportunités. Mais le fait de les faire participer à la prise de décision, on va assurément augmenter l'engagement. Les gens vont être beaucoup plus motivés à travailler, à trouver des solutions, à élaborer des solutions, à travailler sur les projets sur lesquels ils ont participé au début de la conversation. Donc ça fait une grosse, grosse différence au niveau de la collaboration une fois qu'on a pris en compte leurs opinions.
Et évidemment, si on veut qu'ils aient une participation active, ben ça veut dire que probablement il faut préparer les différents participants. Peux-tu nous parler un peu comment tu t'y prends pour préparer ton client, préparer son équipe, pour s'assurer de maximiser la part, la contribution des gens au niveau de l'atelier en soi?
Très bonne question, Éric. La préparation, elle est essentielle au succès d'une rencontre. Généralement, ce que je fais, dans un premier temps, c'est que je rencontre évidemment le client ou la partie prenante qui souhaite organiser une rencontre. Mmh. Et j'ai une série de questions à poser à cette personne-là pour bien comprendre la problématique, bien cerner les enjeux, ce pourquoi il veut une rencontre. Et évidemment aussi, je vais poser des questions sur qui va être là. C'est quoi la liste des participants qu'il veut avoir autour de la table? Mais je vais aussi poser la question, qui ne devrait pas être là? Oui, souvent, c'est une question qu'on ne pose pas quand on vient pour organiser une rencontre. Et c'est là qu'on se retrouve on voulait avoir 8 personnes, puis on se retrouve à en avoir 16 parce que, je vais inviter un tel. Mais souvent, on ne pose pas cette question-là. Qui ne devrait pas être là? Qui a besoin juste d'un compte rendu? Donc cette question-là, pour moi, elle est essentielle. Après, quand vient le temps, une fois que j'ai accumulé toutes ces informations-là, c'est un peu ma phase de recherche, en fait. Si je fais un retour avec mon background en design de service et expérience client, c'est ma phase de recherche. Et une fois que j'ai ça, ben c'est là que je peux, après ça, entrer en contact avec la liste des participants qui vont être invités à la rencontre. Puis ça peut se faire de différentes façons. Lorsque j'ai carte blanche puis que j'ai le luxe de le faire, je vais organiser des rencontres individuelles avec chacun des participants pour savoir c'est quoi leur approche par rapport à cette rencontre-là qui s'en vient. Est-ce qu'ils ont des questions, des préoccupations? À quoi ils s'attendent? Mm-hmm. Moi, ça me permet d'avoir un bon portrait de la situation. Puis, ça permet aussi de susciter un intérêt aussi du côté des participants. Ils savent que si la personne qui facilite la rencontre prend le temps de nous rencontrer, bien, c'est parce que c'est important. Donc, ça a un effet. Sinon, si j'ai pas la possibilité de les rencontrer en personne ou en vidéoconférence, bien, je vais envoyer un sondage. Puis ça, je vais accumuler de l'information. Puis ça me permet justement de créer ce premier engagement-là avec les participants. Une fois que ça c'est fait, ben je vais évidemment envoyer un courriel de bienvenue pour préparer les gens à quoi s'attendre. Si par exemple c'est à distance, je vais donner quelques règles, à savoir la caméra est ouverte, assurez-vous de arriver avec du papier, crayon, etc. C'est un autre jalon au niveau de la communication. Donc c'est bien important de créer ces moments-là pour que quand arrive le jour J, les gens me connaissent. Je suis pas une étrangère dans la place là. Ils ont déjà entendu mon nom à tout le moins. Oui. Ils ont déjà entendu parler de moi. Donc ça, c'est les premiers éléments pour créer une bonne collaboration.
Est-ce que tu as déjà eu dans cette préparation là des échos de peut-être d'animosité entre certains groupes dans l'atelier, c'est-à-dire que tu fais le tour des gens, mais tu t'aperçois que Pierre ne peut pas parler à Marie et si on les met ensemble, ça ne fonctionnera pas du tout. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de situation-là? Et si oui, comment tu travailles ces éléments-là? Je serais curieux de savoir ça.
Ah, oui, j'en ai rarement eu en personne. Et je t'explique pourquoi. C'est que dans ma préparation, en fait, dans les questions que je vais poser, je vais demander évidemment à la partie prenante, la personne qui organise la rencontre, est-ce qu'il y a des drapeaux rouges que je devrais savoir?
OK.
Puis drapeaux rouges, là, c'est autant, des enjeux peut-être de conflits entre personnes. Ça peut être aussi des gens qui arrivent dans l'équipe, donc ont peut-être une semaine d'expérience. Oui. Donc, c'est important pour moi de savoir ces choses-là. Alors, si je reviens à ta question, savoir des conflits entre personnes, oui. Ça m'arrive pas tout le temps, c'est pas fréquent, mais c'est des choses auxquelles je veux savoir en amont parce que ça me permet de me préparer, puis ça me permet justement de dire, ces deux personnes-là ne s'entendent pas, je les mettrai probablement pas en équipe ensemble. Donc, je ne fais pas exprès pour faire cette erreur-là. Donc, c'est des choses que je veux savoir à l'avance, assurément. Mais ça peut arriver sur le coup, tu sais, entre le moment où je vais de rencontre puis l'atelier en soi, il peut y arriver des choses. Ben, après ça, c'est les habiletés de facilitateur qui entrent en jeu, à savoir comment on gère les personnalités difficiles, entre guillemets, parce qu'on est tous la personnalité difficile de quelqu'un. Donc,
j'aime ça la façon que tu le dis.
On a tous nos petits travers. Donc, c'est de cette façon-là que je le gère. Mais heureusement, c'est pas des choses qui arrivent fréquemment là, dans les rencontres. Quand on est bien préparé, puis qu'on prépare bien les gens, généralement, ça se passe relativement bien.
Donc ça touche tout le côté préparation de notre équipe, préparation de l'auditoire, mais des participants à l'atelier. Mais toi en soi, toi, il faut que tu te prépares. Il y a, au-delà de rencontrer des personnes, quels sont les autres éléments que tu dois prendre en considération, toi, dans ta préparation, pour t'assurer que ça se déroule correctement, que tu sois le maître de cérémonie qui crée le flow qui est intéressant au niveau de la rencontre. C'est quoi les autres éléments auxquels, toi, tu dois penser pour toi?
Pour moi, bien évidemment, c'est de bien comprendre l'enjeu, la problématique ou l'opportunité que les gens veulent travailler. Je ne suis pas obligée d'être experte du contenu. Donc ça, c'est très important à comprendre que mon expertise, c'est le processus de collaboration. Maintenant, si j'ai de la documentation à lire sur le sujet pour m'assurer de bien préparer mes questions, mes sous-questions, je dois me préparer en conséquence. Après, une fois que j'ai bien saisi l'objectif qu'on veut atteindre, ben c'est d'aller identifier en fait les bons exercices, les bonnes activités à mettre en place pour m'assurer justement qu'on atteigne les objectifs qui sont souhaités. Est-ce que c'est plus de la réflexion individuelle? Est-ce que c'est plus de la réflexion en groupe? Est-ce qu'il y a un concept à développer? Est-ce que c'est de la prise de décision ou c'est juste de l'idéation qu'on veut faire dans cette rencontre-là? Okay. Donc, tout dépendant du résultat qu'on veut à la fin, puis ça, c'est dans la discussion de prise de besoin, bien moi, je vais aller choisir les bons exercices en conséquence pour être sûr d'atteindre notre objectif. Et évidemment, tout ça aussi est relié avec le temps qui m'est alloué, le nombre de participants qui seront à la rencontre. Parce qu'un groupe de 8 versus un groupe de 20, c'est pas la même chose.
Effectivement.
C'est pas le même genre d'activité non plus. Donc, toutes ces informations-là, moi, je les prends, puis je monte mon modèle de rencontre en fonction de ça. Après, au niveau, je reviens encore à ta question, au niveau de ma préparation personnelle, ben, avant le jour J, ben, c'est sûr que d'avoir bien dormi, avoir bien mangé pas trop lourd, ça a l'air bizarre ce que je vais dire, mais l'alimentation pour avoir l'énergie nécessaire pour faciliter un groupe, elle est essentielle. Mm-hmm. Donc, saine qualité de vie pour être capable de mener un groupe, parce que c'est ça reste que c'est exigeant. Il faut être oui. là à 100% tout le temps, lire la salle, lire les comportements non-verbales. Donc, ça fait en sorte que c'est ça qui fait qu'on va créer un lien à travers cette expérience-là. Donc, je te dirais que c'est ça. Puis après ça, c'est aussi m'assurer d'avoir le bon matériel, que ce soit en personne ou à distance, maîtriser mes outils. Si je suis à distance, de maîtriser un tableau collaboratif parce que je suis le soutien technique de mes participants. Oui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je ne peux pas appeler Roger, qui était le support technique dans nos salles de rencontre en personne. Mm-hmm. C'est moi la soutien technique. Donc, je dois connaître mes outils. Donc, c'est de la vigie constante, me tenir à jour. C'est pas mal ça le travail en arrière-scène.
Donc, là, on a la préparation de nos équipes, tu as la préparation autant du matériel, du contenu, préparation de tous les exercices. Ça se déroule comment? Peux-tu me parler d'un atelier type? Comment ça se déroule? C'est quoi la durée? C'est quoi y a-t-il différentes phases? Quels sont les différents efforts de tempo le déroulement? Puis quelques exemples peut-être. Peux-tu nous brosser un peu ce déroulement-là?
Généralement, une journée type d'atelier, évidemment, ça peut varier. Là, souvent, c'est des demi-journées, une journée complète. Ça peut aller même à deux jours, trois jours. Ça dépend. Mais reste qu'une structure d'atelier est toujours la même. Il y a toujours trois phases dans un atelier. La première phase, c'est évidemment la phase de bienvenue, la phase d'émergence. Ensuite, il y a la phase du milieu qui est la phase où on va explorer. Donc, c'est là que ça va se passer la majeure partie des exercices. Et finalement, on a la phase de convergence qui est essentiellement la conclusion. Donc, ce qui se passe typiquement, c'est que je vais évidemment arriver à l'avance, je vais préparer ma salle, je vais accueillir les participants. Généralement, moi, j'aime bien mettre de la musique pour accueillir les gens. Ça les met dans une atmosphère qui est différente de leur réunion habituelle. Donc, je les accueille. On part ça en douceur, donc je m'assure de créer une activité brise-glace qui va permettre aux gens de créer une connexion, parce que peut-être que ces gens-là arrivent justement d'un autre 3 heures de rencontre, on a besoin de faire une coupure, donc ça permet justement de se déposer. Moi, ça me permet de lire la salle aussi, dans quel niveau d'énergie les participants sont. Puis ça permet aussi, évidemment, de créer un lien avec les participants. Certains participants ne se connaissent pas, donc tout dépendant du contexte. Mm-hmm. Et par la suite, on va se lancer dans les exercices que j'ai prévus. Évidemment, il y a des pauses. À tous les 75 minutes, généralement, moi, je privilégie des pauses. C'est important. Les gens doivent... mentalement, là, c'est des exercices, c'est des ateliers qui sont... ça roule, là. C'est bien structuré, ça roule, c'est exigeant. Les gens n'ont pas tant de repos que ça. Donc, c'est important. Les pauses, pour moi, sont aussi importantes que les activités en soi que j'ai préparées. Mm-hmm. Et une fois que les activités sont complétées, on se dirige vers la conclusion. La conclusion, elle est essentielle. Pour moi, c'est si jamais il y a une activité qui dure plus longtemps que prévu, parce que ça arrive, je dois laisser la parole, je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, se passer, mais ça se peut que je sois obligée de retirer une activité que j'avais prévue pour laisser place à la discussion qui est en train d'émerger. La seule chose que je me permets pas, c'est de jamais, jamais achoper la fin. Donc ça, c'est essentiel de m'assurer que les gens... Je les laisse sur une bonne note, de faire une conclusion appropriée, m'assurer que j'ai pris leur rétroaction sur comment ça s'est passé, comment ils voient la suite des choses. Mm-hmm. Donc, c'est pas mal ça, la structure, je te dirais, typique là, d'un atelier, d'une rencontre de travail. Ces trois grandes phases-là, puis tout dépendant de la durée, les phases durent plus ou moins longtemps proportionnellement à la rencontre, en fait.
Donc, Marie-Christine, tu me décris comment se déroule l'atelier. Maintenant, tu es une facilitatrice externe. Est-ce qu'il y a des scénarios, est-ce que tu as vu dans les organisations des cas où est-ce qu'il y aurait des facilitateurs internes? Et Si c'est le cas, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'aller chercher à l'externe, justement, ce type de support-là?
Absolument, les deux cohabitent, puis c'est très bien que les deux cohabitent. Oui, je suis une facilitatrice externe, mais je donne de la formation sur la facilitation parce que je crois en cette profession-là, en ces habiletés-là. Puis le fait d'avoir un facilitateur interne, les avantages de ça, en fait, c'est que ben c'est sûr que cette personne-là va posséder une compréhension beaucoup plus approfondie de la culture de l'entreprise, des dynamiques de l'équipe, l'historique des projets. Oui. Donc ça évidemment, c'est un avantage en soi. Évidemment, l'autre avantage, c'est la disponibilité de cette personne-là, les coûts potentiellement d'avoir quelqu'un à l'interne qui peut faire ça. Désavantages, j'aime plus ou moins le mot désavantage, mais le biais qu'on pourrait avoir à utiliser un facilitateur externe, c'est souvent, ce que je vois tout le moins quand on m'engage, c'est on sait qu'on a un facilitateur interne, mais cette personne-là, elle doit participer aux discussions de cette rencontre-là. Donc, le fait que cette personne-là soit invitée à être juge et partie en même temps, oui. C'est-à-dire être spécialiste du processus de collaboration, mais en plus jouer le rôle de participant, c'est souvent très, très difficile. Donc, pour moi, être facilitateur, c'est jouer un rôle neutre. Puis de laisser les participants être les héros. Donc, c'est souvent là qu'il y a peut-être un enjeu de ce que je vois. Quand je donne ma formation, une des questions qui revient souvent, c'est « Ouais, mais moi, je suis souvent amenée à faciliter, mais à donner mon opinion en même temps. » Ben dans ce cas-là, c'est peut-être pas la bonne posture à avoir. Faut peut-être se poser la question « Aller chercher un autre facilitateur serait peut-être la solution pour justement éviter ces biais-là puis de créer un déséquilibre au niveau des participants versus le facilitateur. Fait que ça, c'est pour le facilitateur interne. Oui. Après, pour le facilitateur externe, bien évidemment, je l'ai abordé un petit peu, l'aspect neutralité qui est importante. Souvent, quand les gens m'engagent, c'est justement, entre autres, ben pas juste pour ça, mais le côté neutre vient jouer un rôle important dans la décision. Après, ben évidemment, il y a toute l'expertise qui entre en jeu. Le fait d'avoir un background particulier en expérience client, par exemple, va faire en sorte que ça va... Il va y avoir une distinction particulière par rapport à ça. L'autre chose aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui vient de l'externe, permet d'amener une saveur nouvelle aux rencontres, aux dynamiques de rencontres. Donc, on propose des façons de faire qui sont différentes. Si je prends l'exemple, moi j'ai une certification en Lego Serious Play, ben ça me permet, si on utilise cette approche-là dans les ateliers, ben ça me permet justement d'amener d'utiliser cet outil-là que probablement peut-être cette expertise-là n'est pas à l'interne non plus.
Oui, oui.
Donc la distinction, elle est là, honnêtement. C'est vraiment au niveau de l'implication du facilitateur dans le contenu lorsqu'on est interne versus externe, elle est souvent là, la distinction.
Et je pense que cette posture-là vient être encore plus importante quand on a je pense aux différents groupes, souvent t'as des gens qui sont beaucoup plus vocaux, d'autres sont nettement plus réservés. On a toujours celui qui s'obstine. Ben, je dis pas tout le temps, je le dis poliment, là. Mais celui qui a toujours une opinion très tranchée, qui remet tout en question et qui est un peu dans une posture, des fois, peut-être, prouve-moi que ce que tu dis est vrai. Ça amène quand même une dynamique d'équipe qui est particulière. Et je pense que la façon que tu en parles, d'avoir un regard externe amène que c'est plus facile à gérer. Et faire ressortir les éléments importants que tous ces types de personnalités-là peuvent amener peuvent amener au niveau de la contribution à l'atelier.
Absolument. C'est certain que un facilitateur externe va justement amener cette petite touche-là qui va probablement faciliter justement les conversations parce qu'on ne fait pas partie de l'organisation, parce qu'on a un rôle neutre, va faire en sorte que oui, c'est plus facile pour un facilitateur externe de justement gérer toutes ces questions-là, ces conflits potentiels-là qui peuvent arriver. Ben, tu sais, moi, étant donné que j'ai un rôle externe, c'est pas gênant pour moi de poser certaines questions que peut-être quelqu'un de l'interne n'oserait pas poser. Des fois, il y a des éléphants dans la pièce, pas juste un, plusieurs, mais moi, en tant que facilitatrice externe, j'ai la légitimité de poser ce genre de questions-là. Et anecdote intéressante, ça m'est déjà arrivé dans le cadre d'une rencontre de prise de besoin. Une cliente m'a demandé « J'aimerais ça que tu poses telle question. » Moi, je ne peux pas poser ces questions-là. Mm-hmm. J'aimerais ça, à un moment dans l'atelier, que tu poses ces questions. Donc, c'est des choses qui arrivent. Je le prends en note, puis à un moment donné, ben j'intègre ça dans le design de la rencontre pour venir discuter de ces points-là. Donc, oui, c'est un atout au niveau de la facilitation externe de pouvoir venir... gérer, entre guillemets, là, je mets ça toujours entre guillemets, là, les conflits, ça facilite la conversation, ça c'est sûr.
Effectivement. Ça m'amène, est-ce qu'il y a un client type ou un client idéal pour lequel, justement, cette facilitation-là peut amener beaucoup de bénéfices? Puis je pose la question peut-être d'une autre façon, c'est quoi les conditions de succès pour justement un atelier qui donne ses fruits?
Oui, très bonne question. Conditions de succès... Écoute, moi, j'irais, à la base, la personne croit en la collaboration. Donc, si cette personne-là me contacte puis veut organiser un meeting, ben c'est qu'à la base, tu veux que les gens aient l'occasion de discuter ensemble, d'échanger, de partager leurs opinions, même si parfois elles peuvent différer puis que c'est pas toujours évident, puis que tu es prêt à entendre d'autres choses que ta propre idée. Et que ça se peut qu'à la fin de cette rencontre-là, de cet atelier-là, l'idée que tu avais en tête pour un défi X, ce ne soit pas ça qui soit retenu, mais que ce soit autre chose. Donc, il faut être prêt à entendre d'autres options. Autre chose, ben, c'est évidemment de se donner du temps pour prendre du recul. Donc, oui, d'organiser une rencontre, puis de dire, ça va être une demi-journée ou une journée de travail. Je sors les gens de leur quotidien. Puis ça, ben il faut y croire. Si les gens y vont de reculons, on me dit « Ouais, mais pendant ce temps-là, ils ne feront pas leur travail. » Ben c'est certain que si tu ne crois pas au fait de prendre du recul puis de donner cette opportunité-là à ton équipe, ça peut être un défi aussi. Autre chose que je constate aussi dans l'organisation, c'est d'être capable de nommer un décideur quand on est dans ces rencontres-là.
Okay.
Souvent, il n'y a pas de décideur. Et ce qui arrive quand on n'a pas de décideur autour de la table, ben c'est que lorsqu'on vient le temps de générer des idées, les participants donnent leur opinion, génèrent des solutions ou des problématiques à prioriser. Mm-hmm. Oui, ils vont voter ou une des techniques qu'on utilise, c'est qu'ils vont voter sur ce qui les intéresse le plus. Mais à la fin de cet exercice-là, il y a quand même un décideur qui doit trancher. Vous dites, parfait, on s'en va vers ça, puis pour la suite de l'atelier, on va continuer dans cette lignée-là. Souvent, je rencontre des gens, puis ils se demandent pourquoi leur rencontre ne fonctionne pas. Bien, c'est parce qu'il y a peut-être une absence de décideur autour de la table.
Intéressant.
Et ça, pour moi, c'est un des... dans mes clients idéaux, le succès clé, c'est d'être capable d'avoir un décideur, mais qui va être là en tout temps. Pas un décideur qui vient à quelques fois dans la rencontre, puis qui s'absente, puis qui revient. Le décideur, s'il est là, si c'est une demi-journée, il est là. La demi-journée, il participe à toutes les activités. Mm-hmm. Donc ça, je dirais, là, c'est les trois éléments clés pour moi qui font en sorte que c'est un bon client.
Et puis dis-moi, est-ce qu'on fait l'atelier, est-ce qu'on le fait sur place, dans l'organisation ou on va à l'extérieur?
Ben, bonne question. En fait, je vais être... plate dans ma réponse, mais ça dépend, honnêtement. Ça dépend de l'objectif. T'sais, si c'est plus une retraite stratégique, puis là, on veut changer d'air, tout ça, ben oui, c'est certain que de se retrouver à l'extérieur est une bonne chose. Cela dit, c'est pas uniquement ça qui va faire le succès de la rencontre. Il y a des impératifs de budget, il y a des impératifs de disponibilité. Souvent, les équipes sont de plus en plus dispersées à travers, à travers le Québec. Donc, ça peut se faire à distance. Il faut prendre en considération ces éléments-là, mais je pense pas que c'est l'élément qui va faire en sorte que c'est le succès là, toujours sortir de l'extérieur du bureau. On l'a vécu pendant quelques années avec la pandémie, c'était à distance. Puis, pour ma part, l'expérience que j'ai eue en développant mes ateliers, bien, ça se fonctionnait très bien. Les gens étaient très engagés. Donc, honnêtement, j'irais avec, en fonction des ingrédients que j'ai, est-ce qu'on a le budget? Est-ce que c'est un intérêt pour le client de sortir son groupe à l'extérieur? Donc, j'y vais avec ces ingrédients-là quand vient le temps de prendre la décision. Mais c'est rarement moi qui va imposer de sortir à l'extérieur. Ça va être une discussion qui va se faire avec le client.
OK. Dis-moi, si on veut en savoir plus sur toi, sur tes services, ta formation en ligne, on va où? On consulte quoi? Peux-tu nous en parler un peu plus?
Oui, avec plaisir. Bien, évidemment, il y a mon profil LinkedIn. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je suis assez active sur ce réseau. Ensuite, bien, vous pouvez consulter mon site web, mcmco.ca. Vous allez avoir de l'information sur, évidemment, moi, mon travail, qu'est-ce que j'offre comme service et accès aussi à mes formations sur la facilitation. Et je viens de sortir une infolettre. Les gens peuvent s'abonner à mon infolettre que je vais publier une ou deux fois par mois sur comment améliorer ces rencontres une à la fois.
Excellent. Marie-Christine, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur les ingrédients qui sont essentiels pour faire en sorte que, justement, la facilitation puisse donner des fruits et permettre d'aller chercher, d'approfondir les différents sujets, que ce soit de l'innovation, des problèmes de gestion, des enjeux stratégiques. Je pense qu'on a tous les ingrédients qu'il nous faut pour être en mesure de pouvoir piloter nos ateliers en tant que tel. Merci beaucoup pour cette contribution puis surtout pour avoir participé au podcast avec nous.
Ben merci Eric, ça fait un plaisir d'échanger avec toi ce matin.
Allez, à bientôt, merci.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. L'apport d'un facilitateur externe et expérimenté peut faire une très grande différence dans la conduite d'ateliers collaboratifs. De cette rencontre avec Marie-Christine Messier, je retiens les 5 points suivants. D'abord, que la facilitation d'atelier consiste à guider une équipe à travers un processus d'étapes prédéfinies pour l'aider à trouver ses propres solutions. Aussi, que la participation active des participants permet d'augmenter l'engagement, la motivation et la collaboration. Troisièmement, la préparation des participants et celle du facilitateur sont essentielles pour le succès d'un atelier. Il est important de comprendre les enjeux, de choisir les bons exercices et de maîtriser les bons outils qui seront nécessaires. Ensuite, en quatrième, la conduite de l'atelier nécessite de bien lire la salle, les participants et aussi de prendre avantage des pauses pour permettre aux participants de se reposer mentalement. Enfin, comme cinquième élément, il existe différentes conditions de succès. Mentionnons la posture de collaboration et la présence d'un décideur pour faciliter les prises de décision et la mise en œuvre des prochaines étapes. Vous pouvez consulter les notes de l'épisode au www.inteliaconsulting.com/épisode 154. Et en terminant, je vous invite à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où à chaque semaine, on approfondit les différents thèmes du podcast afin de développer votre impact stratégique et la croissance profitable de votre organisation. Suivez le lien au www.inteliaconsulting.com/perspective stratégique. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine.